franceinter.fr.
Bonjour, vous avez aimé Sarkozy au Resto du Cœur pour draguer les démunis. Vous avez aimé Sarkozy à Taxobin pour draguer la gauche. Vous avez aimé Sarkozy à Don Rémy pour draguer le FN. Vous allez adorer Sarkozy au Carlton de Lille pour draguer les fans de DSK.
Ça y est, liquidation. Liquidation pour 6 France. Voilà, les salariés qui vont se retrouver tous au chômage. Voilà, c'est ça l'action de Xavier Bertrand et de son parti politique. Voilà, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Tout ça pour ça, c'est lamentable. À bientôt, ciao.
Salut Daniel, c'est les cheminots de Saint-Étienne qui tenaient à te laisser un petit message. On est en grève depuis 10 semaines contre un projet de la direction régionale SNCF. Voilà, celle-ci veut regrouper sur le département de la Loire les filières vente, contrôle et conduite à l'intérieur d'un établissement autonome. Et nous, on pense que c'est fortement en vue d'une privatisation du transport TER, même si c'est à titre expérimental. Sur le département, à l'horizon 2014. Ce projet aura des conséquences énormes sur l'emploi, sur la souffrance au travail et sur la qualité du service offert au public, quoi. Alors on peut être pour ou contre la privatisation, ça c'est certain. Chose est sûre, c'est que dans le transport ferroviaire, ça ne va pas amener que du bonheur et il y en aura pour tout le monde. Donc tout le monde laisse pourrir notre mouvement. On a mis 33 jours pour avoir une pseudo-table ronde avec la directrice régionale qui est à l'origine de ce projet. 33 jours de grève pour arriver à ça. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus de nouvelles de personne. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ben, tout le monde s'empare de ce dossier parce que c'est vraiment très, très important de ce qui va arriver. Transport ferroviaire, on ne peut pas donner ça à des généralistes. On sait pas. C'est assez compliqué à expliquer, mais nous, on pense même à la sécurité des trains sera engagée et la sécurité à l'intérieur des trains sera vraiment engagée après ça, quoi. Bonne émission et puis à bientôt. Merci, Daniel.
Bon, le clair de lune, nous nous taisons, rêve la terrasse. Le temps passe et rien ne se passe. Et pourtant, d'un cœur palpitant, ciel, je te rends grâce. Car dans le silence de ta nuit de perles, le souffle endormi de ma douce amie caresse ma joue. Car la nuit qui dort serre sur son cœur sa gerbe d'étoiles. Car l'ombre fait luire dans un bleu sourire ses yeux pleins de larmes. François D., mon grand-père.
Le 25 janvier 1982, en jardinant, j'avais involontairement oxy un ver de terre avec ma bêche. Hier soir, une délégation de la communauté des Lombriques est venue me consulter. Leur intention est de vouloir célébrer le 25 janvier prochain le 30e anniversaire de la mort de leur frère rampant. Alors, j'ai donné mon accord à cette commémoration. Cela se fera non pas au plateau des Glières ou à Vassieu-en-Vercors, mais dans mon jardin, ici à Dieulfi. Et j'invite le président de la France à honorer de sa présence cette modeste manifestation. Bien entendu, je ne suis pas dupe. Je suis conscient que les vers de terre n'ont pas le droit de vote. Mais, je sais fort bien que les amis des bêtes, les défenseurs de la cause animale, eux, par milliers, par millions, vont bientôt fréquenter l'isoloir. Alors, réfléchissez, Mr. President. C'est Jackie.
Lors de son meeting à Mérignac, François Hollande a mis en garde l'électorat populaire contre les extrêmes. Pas l'extrême droite, non. Les extrêmes. Pour résumer, le capitalisme, c'est la norme. À gauche de la norme, et face à l'urgence planétaire, les extrêmes, souhaitant de manière excessive et exagérée, un processus de dépassement de la norme capitaliste. Régis, de Nîmes.
Là, j'appelle, c'est pour laisser un message à mon dentiste. Parce que j'ai un dentiste qui est super. C'est-à-dire, il écoute là-bas si j'y suis. Il branche France Inter dans son cabinet, là, si les patients qui passent entre 15 et 16 heures, eh bien, ils entendent là-bas si j'y suis, quoi. Et puis, il adore le jazz. Lui-même, il joue du saxo. Alors, comme je le vois pas ce lundi, là, je voulais lui signaler, très important, à 18h, vous passez sur France Musique, parce qu'à Open Jazz, Alex Dutil consacre la première moitié de son émission à Charlie Parker. Voilà. Et alors, tant que j'y suis, j'ai le temps. Mardi matin, le matin des musiciens, à 11h. Alors ça, c'est une super émission aussi. Et c'est consacré à Sarah Vaughan. Je pense que les Américains doivent dire Sarah Vaughan. c'est Sarah Lazarus qui décortiquera, quoi. Voilà des choses à pas louper, quoi.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. J'ai écouté l'émission de jeudi, entre autres le répondeur, après avoir écouté celle de vendredi. Écouté sur le site d'ailleurs magnifique, labas.org, qui est vraiment génial, dont je ne peux plus me passer. Bon, et les enfants, là, faut arrêter ces petites polémiques à deux balles sur les répondeurs de Mermet. Puis on se ressaisit, là, les AMG, hein. On n'est pas des andouilles mégalomanes grincheuses, hein. Donc l'émission de Mermet, c'est autre chose que le répondeur, qui est un amuse-gueule tout à fait sympa. Quant à cette personne qui passe tout le temps, moi j'aime bien ce qu'il dit, c'est un fil rouge, c'est la construction du répondeur qui est comme ça, c'est un gars qui dit ce qu'on pense tous, alors que ce soit, on ne peut pas tous le dire, donc moi j'aime bien que ce soit dit par lui, il met des formes, c'est toujours un peu sur la même construction, ça ne me choque pas du tout, du tout, du tout. Merci Daniel pour tout, merci à tous les AMG, c'était Sébastien, bonne journée à vous, salut.
Merci, merci, merci. Et la suite de la polémique au sujet des chouchous du répondeur, les Claude et autres Nîmois, autres Régis de Nîmes. Voilà, ça a continué, ça nous plaît bien évidemment. Votre fidélité, votre attention et ce bonheur, je le répète, qui est chaque jour renouvelé d'ouvrir la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Alors aujourd'hui, on va monter dessus. pas seulement sur la boîte vocale, on va voir les choses de haut. On va regarder Paris d'en haut. Voilà, on va monter sur les toits de Paris. Une balade sur les toits de Paris, avec deux petits nouveaux dans l'équipe de là-bas si j'y suis, qui sont Gaylor et Sarah. On dirait un titre de film. Lui, c'est Gaylor et elle, c'est Sarah. On les a rencontrés l'an passé à l'école de journalisme de Lille. Et puis, on les a adoptés. Et, et voilà, c'est leur premier grand reportage en altitude sur les toits de Paris. Il existe une fleur qu'on appelle désespoir du peintre. Désespoir du peintre, tant elle est difficile à peindre à cause de la finesse de sa couleur. Eh bien, on pourrait dire la même chose des toits de Paris, des toitures de Paris. Mains et mains peintres s'y sont cassés les pinceaux. Même le grand Paul Cézanne, même Vieira da Silva, la grande peintre d'origine portugaise, qui a peint ces bleus gris bleutés qui changent bien sûr lorsque la pluie tombe sur le zinc. Et tout dépend de l'état du zinc. S'il est neuf, s'il est plus usagé. Et ça, c'est des subtilités, des grandes subtilités que connaissent, qui n'ont, les pigeons, que connaissent les amants qui s'enfuient par les lucarnes quand le mari rentre dans la chambre. Et que connaissent aussi les fantomas, que connaissent aussi les violons. Il y a des violons sur les toits, il y a des bœufs sur le toit, le bœuf sur le toit. Et voilà la balade d'aujourd'hui sur les toits de Paris. Paris vu d'en haut par Gaylor et Sarah. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, meilleurs vœux à toi et à toute l'équipe et à tous les AMG. Le prochain Café Repère d'Angers aura lieu mardi 10 janvier à partir de 20h. Attention, nous changeons de lieu. Pour 2012, nous nous réunirons au Zar Café, 66 rue Baudrière à Angers. En ce début d'année, nous parlerons du rendez-vous des Glières et des résistants d'hier et d'aujourd'hui. Une petite restauration est possible. Rendez-vous donc à 20h au Zar Café ce mardi 10 janvier.
Bonjour à tous, c'est Jérôme qui vous annonce que le repère de Brive redémarre. Prochain rendez-vous mardi 10 janvier à 18h au Café Le Diplomate, avenue de Paris. Thème du jour, démocratie, où es-tu, à quoi joues-tu? À bientôt.
L'autre repère de Nantes vous propose son sujet du mois de janvier 2012. Les banques, que faudrait-il en faire? Certains ont proposé de les supprimer ou qu'elles aient plus de liberté. Certains ont proposé aussi de ne pas les détruire mais de les saisir. C'est le lundi 9 janvier à partir de 20h au bar Le Chat Noir, 13 allée du Guétrouy à Nantes.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Attention, le Café Repère de Saint-Péray en Ardèche change de lieu. Je vous donne rendez-vous ce soir, lundi 9, à 20h, à l'Argonaute, toujours à Saint-Péray. C'est place de l'Hôtel de Ville. Avec Frédéric Gobert, nous essaierons d'imaginer l'Ardèche en 2040. Je vous attends nombreux à l'Argonaute, place de l'Hôtel de Ville, pour ce premier rendez-vous de 2012 à Saint-Péray en Ardèche. C'était Cyril, ciao ciao, à ce soir.
Moi je suis pas très à l'aise comme tu vois.
Ouais, d'accord.
Je suis un peu tremblant là.
C'est combien il y a là? 45-50 mètres de vide.
D'accord.
Tu glisses, tu t'arrêtes pas. C'est du zinc. Donc t'as qu'une protection, c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire ces sortes de rampes qui sont à l'extérieur. Où tu peux t'accrocher. Et encore, il faudra être extrêmement rapide pour t'accrocher parce que la descente, elle va très vite. Hein.
Et quand vous êtes là-haut, vous ne le savez pas, mais quand vous êtes là-haut, quand vous arrivez là-haut, vous voyez justement cet océan de zinc gris que vous ne voyez pas de la rue. C'est vraiment l'association entre le zinc et l'ardoise qui fait la lumière de Paris, cette lumière un peu grise.
Pour repérer un conduit de cheminée, il faut être deux, un dans l'appartement et un sur le toit de Paris.
Ça me plaît bien parce qu'on dirait qu'il domine le monde, il domine tout Paris.
Salut, c'est Daniel Mermès et la Bassie qui suit avec Gaylor et Sarah. Quand on voit Paris d'en haut.
Flight number 2, arriving from New York.
Et on monte un escalier, on va où ?
Sixième.
Se faire remarquer, essayer d'accéder vite à l'étage supérieur.
Donc il y a une trappe. Comment on fait? Il aurait fallu une échelle.
Donc là, vous appuyez sur la rambarde de l'escalier. Qu'on minuscule, on n'a pas du tout la place pour s'asseoir. En fait, là, on est juste sous le vasistas.
Ouais.
Donc là, bah, on va aller sur les toits, en fait.
Ouais.
Bon, on y va.
Ouais.
Les violons qu'on rencontre sur les toits ou le bœuf et l'amant qui s'enfuit par une lucarne, oui, et Fantomas au-dessus des toits dont la silhouette grandit, ou alors ça pourrait être Spider-Man aussi. Et ça, très bien. Ah, il faudrait parler des ruches.
On adore parler de ça quand il s'agit des toits de Paris. Et quelqu'un dit toujours, mais vous savez qu'il y a des ruches sur certains toits de Paris, sur l'Opéra. Il y a des ruches, on fait du miel dans certains endroits de Paris. On va évoquer les cheminées roses et rouges, là et les toitures grises, les ardoises. On va évoquer tout ça. Et les dômes magnifiques de Paris. On va évoquer tout ça, mais on aurait pu commencer par l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui font tout ça, et qui continuent de faire tout ça, et qui continuent de faire tout ça de façon très artisanale, à la main, avec des cisailles, une règle, quelques tréteaux, et beaucoup de savoir-faire qui sont les artisans couvreurs, et puis, bien sûr, les ramoneurs. Et oui, il y a toujours des ramoneurs qui montent sur les toits de Paris pour ramoner les cheminées, absolument. Voilà, c'est la balade d'aujourd'hui avec le ciel au-dessus, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Les toits de Paris ont inspiré bien de la poésie, bien de la chanson, bien du cinéma aussi. Parce que on ne sait pas trop pourquoi, finalement, on aime que les choses se passent vers le haut, s'en sortir par le haut, prendre de la hauteur, comme si on ne pouvait pas s'en sortir par le bas, comme si descendre était moins noble que de monter. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de s'enfuir par les toits ou de se balader de toit en toiture, c'est plus fermé, il y a plus de sécurité. Mais il y a encore quand même des baladeurs de toit. Et puis il y a encore peut-être, de ces histoires entre les couvreurs, les artisans couvreurs, et les bonnes d'enfants. Oui, dans les romans populaires, on trouvait ça assez souvent. À la fin du 19e siècle, le couvreur qui aperçoit par une fenêtre, par une lucarne, une rondelette jeune femme, une bretonne ou une alsacienne, et qui s'en éprenait jusqu'à passer quelque temps sous un édredon de plumes, avec au-dessus de soi, à travers la lucarne, la lune qui vous regarde. Voilà où on va jusqu'à 16 heures dans la basse, si j'y suis, avec Gaylor et Sarah, quand on voit Paris d'en haut.
Travailler sur un échafaudage, ce n'est pas toujours très rassurant, mais ça offre aussi des avantages, on ne s'ennuie pas un seul instant. Demandez aux gars du bâtiment, ils vous répondront certainement. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. Et devant un tel tableau, travailler ce n'est plus du boulot. On aperçoit baissant la tête des silhouettes, format réduit. C'est le palais des marionnettes, des midinettes et des titis. On fait bonjour au badaud, on regarde s'amuser le poulbeau. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. Autrefois sur des cartes postales, j'avais vu Paris en tout petit. Mais quand j'ai connu la capitale, j'ai trouvé qu'elle avait bien grandi. Et je suis monté au Sacré-Cœur, et là, j'ai chanté de tout mon cœur. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. C'est comme un divin tableau, chaque jour plus vivant, plus nouveau. la tour Eiffel comme une reine. À son domaine, l'immensité, mais Notre-Dame avec la Seine sont les gardiens de la cité. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau pour faire un pareil tableau. Ah vraiment, 2000 ans, c'est pas trop.
Oh ma biche, dépêche-toi.
Oui, bonjour, Francis. C'est Guélan, je viens d'arriver là. Je vous attends. Pas de problème, à tout à l'heure.
La clé. Voilà. La clé. Tu veux monter par là ?
Ouais. Bonjour, vous êtes Francis, vous m'avez reconnu, j'avais mon micro.
Bah ouais.
Enchanté. Donc on va rentrer, on a rejoint Francis Arsène qui est coureur zingueur sur ce chantier de l'avenue Matignon entre deux boutiques d'art. On va rentrer dans la cour, la porte cochère. Dans ce quartier chic de la capitale, couvreurs zingueurs, c'est ceux qui entretiennent et qui réparent les toits parisiens. Les toits en zinc, c'est pour ça qu'on appelle ça couvreurs zingueurs. Ce qui fait la spécificité de ces toits qui sont gris argentés. Bon, on y va. Alors on monte sur l'échafaudage pour accéder au toit. On va mettre mon micro et mon sac. On monte, prendre l'altitude.
Voilà, on prend l'altitude avec Francis Arsène, couvreur zingueur. C'est formidable de s'appeler Francis Arsène quand on est couvreur zingueur, on dirait ces romans, la fin du 19e dont je parlais. Et ben, le métier n'a pas changé depuis. Même si Paris n'a pas toujours été recouvert de zinc, c'est une histoire justement de cette fin du 19e siècle. 70 km carrés de toiture sur Paris. C'est quand même pas mal, 70 km carrés que nous allons voir de haut, en dessous de nous, alors avec hérissés de clochers, d'églises, de dômes et plus loin de tours. Plus moderne, et il faut se repérer là-dedans quand on est malin, quand on est parisien depuis longtemps. Le jeu, évidemment, dire ça, c'est le Val-de-Grâce, ça, c'est le Panthéon, ça, c'est la Tour Montparnasse, l'Observatoire, là-bas, c'est l'Italie, etc. La place d'Italie, enfin, les quartiers d'Italie, bah, Paris existe encore, malgré tout, bien sûr. Paris s'embourgeoise horriblement. Les spéculateurs éliminent le populaire, les autres mondes sociaux que celui de la bourgeoisie, de la spéculation. Mais enfin, Paris est quand même encore un peu Paris. Surtout là où nous sommes, sur le toit, avec ces artisans qui continuent de faire ce boulot à la main. On n'a pas industrialisé la couverture zingrie. Et ça se fait toujours de façon artisanale. Regardez bien.
Et alors là, on est à combien de mètres du sol ?
Bon, là, on est à peu près à 20, une vingtaine de mètres du sol, à peu près.
20 mètres, ça ouais. Paraît déjà haut. Hein.
Oui, ça fait. Ouais, il y a 3 mètres par étage, donc comptez, on est au 5e, on est plus une hauteur, on est à 18-20 mètres, à peu près.
Toi, t'es couvreur zingueur depuis quelques années ?
Depuis 35 ans.
35 ans ?
Ouais. Chaque toit est différent, en fait. Chaque mise en scène des toits de Paris est.
Tu dis mise en scène, c'est comme le théâtre en fait, hein, toi.
Ouais, il y a toujours un petit côté théâtral, avec ses cheminées, ses antennes, ses toits très compliqués, le savoir-faire qu'on voit jaillir de nos yeux, des choses comme ça.
On va passer au milieu, plutôt qu'au frettage. On va prendre sur la souche de cheminée, au mur et en façade là. Comme ça passe juste au-dessus du chat de droite, les mecs peuvent s'attacher.
Okay.
Par contre, est-ce qu'on rajoute des points d'ancrage pour qu'ils puissent s'accrocher, des choses comme ça?
Là, on est tout en haut sur
le fêtage,
le point culminant de ce toit. Hein. Et je trouve que c'est plutôt apaisant, c'est plutôt reposant comme atmosphère. Il y a la rue en bas, le bruit qui monte.
Les couvreurs, c'est un peu les maîtres du bâtiment, quelque part, parce qu'ils sont toujours le plus haut. Donc ils dominent tous les autres corps d'État.
Les dieux du bâtiment, alors. C'est l'Olympe, ouais, ici.
C'est un peu la noblesse, parce qu'en fait, ils dominent tous les autres corps de métier. Ils viennent couvrir le charpentier, ils viennent couvrir le ravaleur, ils couvrent tout le monde.
C'est le royaume des cieux.
On est toujours plus à l'aise sur un toit que dans la rue, en fait.
Ah ouais, vous êtes plus à l'aise ici. Bien
sûr. C'est un peu inné, on l'a dans soi maintenant.
Mais justement, c'est hyper risqué, parce que le zinc comme ça, là, c'est du zinc neuf, mais ça glisse beaucoup.
Vraiment, on le sait, nous. C'est un risque à chaque instant. C'est dangereux, il faut que ce soit dangereux.
Il faut que ce soit dangereux.
Bah oui, ça permet de respecter aussi le métier. Parce que si jamais c'était pas si dangereux que ça, bah, c'est tout le monde qui pourrait le faire.
Non, hier, ça passait pas dessus, mais...
J'ai arrivé au bureau, moi, j'étais au bureau. Ça n'a pas averti, d'un seul coup, ça a craqué, c'était terrible.
On a commencé par les crayons hier soir.
Il y a eu un coup de tonnerre à 3h30, à 3h, là, et ça a craqué d'un seul coup. Ça a craqué, c'est tombé, ça durait quoi? Ça durait 10 minutes, non?
Ouais.
C'était impressionnant.
On peut se balader un petit peu, redescendre?
Bien sûr.
Au chantier? Alors, on va descendre le long de l'échelle. Essayez de faire gaffe à moi, hein, pas de glisser. Lui est à l'aise. Hein. Francis, droit comme un i sur l'échelle. Là, on est sur une pente de toit avec une échelle en bois qui est fixée au sol. Hop, là, c'est un peu plus périlleux. Hein. Faut remonter là. Là, on arrive à l'établi de préparation des pièces et des matériaux avec Michel. C'est ça, c'est Michel qui fait les découpes. Alors c'est quoi les outils dont a besoin un couvreur?
L'outil couvreur, c'est simple. Un couvreur, il a besoin d'un mètre déjà et un crayon à pointe grasse, ça c'est important.
Pour bien marquer le
zinc, pour savoir où est-ce qu'il va se couper ou tracer. Ensuite, il a un outil qu'il est en train de prendre et il a mis une règle là, il s'est fait une règle. Il est en train de donner, il va griffer le zinc. Ça veut dire qu'il va le couper. Voilà. Il plie et il tasse.
Et voilà, la coupe est faite.
Oui. Les bruits du toit, on sait qu'on est sur les toits.
Il y a des bruits sur les toits. Hein.
Voilà, il y a des bruits, à la fois le bruit de la cisaille, le bruit de la griffe, le bruit du fer, le bruit du pliage.
On les entend un peu autour de nous là.
On sait que voilà, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là.
Ça c'est le sifflet du couvreur.
Ça c'est le vrai sifflet du couvreur. Voilà. Quand il est en bas du toit, quand il est en rez-de-chaussée, il appelle ses collègues ou il appelle ou le patron ou le commis appelle ses ouvriers, il siffle comme ça.
Comme les oiseaux.
Comme les oiseaux, et on lui répond.
Vous vivez un petit peu avec eux, avec les oiseaux de Paris aussi.
Bon, les pigeons, c'est pas spécialement ce qu'on apprécie, quoi. Mais les autres oiseaux, on les laisse tranquilles, quoi.
Pourquoi vous appréciez pas les pigeons?
Bah parce qu'en fait, ils salissent bien au toit, quoi.
C'est des fouteurs de merde, les pigeons. Hein.
C'est des fouteurs de merde.
Là, on est en face de bureaux. Alors, c'est assez marrant, parce que je vois des gens qui nous regardaient.
Ouais.
Nous, on peut les regarder aussi. On voit des bureaux. Alors, c'est deux mondes très différents, parce que nous, on est sur un chantier. On fait de la couverture.
Ouais.
Et là, en face, on a des bureaux avec des gens plutôt en costard.
Ouais, c'est deux mondes qui s'observent, deux mondes, mais c'est des mondes à part, quoi. Et on est voisins.
Le temps d'un chantier.
On se côtoie le long d'un chantier, quoi. Ils admirent le travail, notre agilité sur les toits. Et nous, on va pas dire qu'on observe ce qu'ils font, à part parce qu'ils ont un ordinateur ou un crayon à la main, quoi. C'est complètement différent. C'est plutôt eux qui nous regardent que nous, on les regarde, je pense.
Dans la place.
Dans la place.
Dans la place.
Daniel. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est presque ton homonyme, Gilles Mermet. Il est photographe, et que les auditeurs se rassurent, aucun lien de parenté avec toi, Daniel. Si on va le voir, c'est parce qu'il vient d'écrire un livre sur les toits de Paris. Bonjour. Qu'est-ce que l'œil du photographe trouve en premier? Sur quoi il se fixe?
C'est une lumière absolument merveilleuse, quelle que soit la météo. Que ce soit grand soleil ou gris, Paris vu de là-haut est absolument splendide. Vous êtes sur un océan de toits, vous êtes un peu l'impression d'être sur un bateau et vous ne voyez pas les rues. Et vous cherchez vos repères, vous cherchez vos phares. Alors vous avez la tour Eiffel, vous avez la tour Montparnasse, et quand vous vous retournez, ben vous avez le Sacré-Cœur. Ce sont vos points d'attache en quelque sorte, vos points presque de sécurité. Et vous avez les très beaux dômes brillants, rutilants, de d'or, comme les Invalides par exemple, la coupole de l'Académie française. Il y a ces rectitudes des grandes avenues haussmanniennes, bien sûr, mais qui sont toujours compensées par la douceur, la volupté des dômes. Il y a des dômes partout à Paris. Il y a cette rondeur d'une femme enceinte, en fait. Et vous avez l'impression que vous pouvez, comme un chat, finalement, ou comme Fantômas, aller vous balader de toit en toit, et que là, Paris s'offre vraiment à vous. Mais c'est vrai qu'on repense à Jean Marais, qui jouait dans Fantômas. On repense à Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville. Il y a aussi le locataire de Polanski, où on voit vraiment l'ambiance sur les toits de Paris.
Putain. Quelle heure il est?
Il est presque minuit.
Regarde, les monuments vont s'éteindre.
Comment ça?
Regarde. Et voilà. Et maintenant, il y a des gens qui vont sortir sur les toits.
Ah bon?
Tu vois l'ombre là-bas, près de la grosse antenne?
Je vois rien.
Mais si, putain. Et l'autre à droite qui monte l'échelle.
Ah oui.
Voilà. Tu vois, quand les monuments s'éteignent, il y a des gens qui montent sur les toits et qui font la fête. Ils attendent tapis sous les vasistas dans les mansardes. Et quand l'obscurité retombe sur Paris, quand le Panthéon, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel s'éteignent, ils sortent peu à peu et envahissent en silence les toits et les balcons. Ils montent aux échelles, se pendent aux paratonnerres et aux antennes. Ils font des glissades le long des pentes d'ardoise. Ils courent sur les corniches. Ils enjambent les parapets et sautent au-dessus des ruelles. Derrière les cheminées, ils s'embrassent. Et quand il fait bon, ils font l'amour sur les terrasses.
Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais de la poésie.
Je suis prêt à tout, tu vois. On est avec Gilles Mermet, vous êtes photographe, vous avez publié un livre de photos sur le métier de couvreur qui s'appelle Les Toits de Paris. Alors là, on aborde un petit peu une question d'histoire, mais effectivement, Haussmann a, pour certains, massacré complètement la ville, pour d'autres, l'a transformé en lui donnant ce qui fait aujourd'hui son charme et son caractère. Historiquement, les Toits de Paris n'ont pas toujours été comme ça.
Non, alors, quand vous êtes sur les Toits de Paris, vous pouvez encore repérer, ça dépend dans quel quartier vous êtes, mais vous repérez encore le Paris du Moyen-Âge. C'est ce Paris central, ce Paris autour de Notre-Dame, c'est le Paris du quartier latin, c'est tout ce Paris de l'île Saint-Louis. Et vous voyez, de par la configuration des petits immeubles, qu'à l'époque, au Moyen-Âge, mais jusque très tard au 19e siècle, on était avec des toits pointus, avec des toits très, très, très pentus, en fait. Il en reste encore, bien sûr, quelques-uns, hein, mais tout ça a été ensuite totalement transformé avec une nouvelle architecture qui est arrivée avec Haussmann, c'est-à-dire les grands immeubles haussmanniens, où les toits étaient beaucoup plus plats. On a amené, à ce moment-là, un nouveau concept d'architecture de la toiture, c'est ce qu'on appelle le brisis et le terrasson. Donc le brisis, c'est la partie que vous voyez de la rue, qui est en général recouverte d'ardoise. Et le terrasson, lui, il s'échappe à votre vue. C'est la partie en zinc. Et quand vous êtes là-haut, ben vous ne le savez pas, mais quand vous êtes là-haut, quand vous arrivez là-haut, vous voyez justement cet océan de zinc gris que vous ne voyez pas de la rue, parce que Paris du 19e siècle, Paris d'Haussmann, est un Paris recouvert de zinc. C'est vraiment l'association entre le zinc et l'ardoise qui fait la lumière de Paris, cette lumière un peu grise et très très belle.
Tous les toits de Paris, dans ma chambre, on s'aimera, c'est si bon
d'être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, qu'on s'aimait sans perdre un seul instant. C'est ainsi qu'au raqueur, on cueille comme une fleur. L'étoile parmi le bonheur.
Mamma, mimo, mamma, dia, mamma. Mamma, mamma, mamma.
On est sur les plaques de zinc d'un toit. On est dans le 17e arrondissement à Wagram. On est avec le hors humain. Une espèce de créature comme on ne trouve pas beaucoup sur Terre.
Alors celui-là, c'est un drôle d'oiseau, c'est le cas de le dire. Il se dit le hors-humain. Et il s'exhibe sur les toits. Sur les toits de Paris. C'est quoi? Comment le définir? Un acrobate? Un philosophe? Un poète? Un écrivain aussi? Une espèce de créature comme ça qui saute à la corde. Au-dessus du vide, au-dessus d'une petite corniche minuscule comme ça. C'est vraiment l'homme du vertige.
C'est un immense terrain et on va pouvoir passer de Wagram à la place...
De l'Étoile.
Place de l'Étoile et ensuite on va contourner, on va aller sur l'avenue MacMahon. C'est rare des toits qu'il y ait autant de communication. On va aller où?
On va aller dans le vide.
Ouais, mais ça ne me rassure pas. On va aller dans le vide. Donc là, on est complètement sur l'arête du toit, hein, tout en haut. Vue imprenable, c'est sûr, sur le 17e. Moi, je ne suis pas hyper rassuré. Il y a le vide de chaque côté. Mais bon, j'avance, hein, je suis. Un souffle ambiant. On va aller où? Parce que moi je suis pas très rassuré, il faut passer ici.
Il y a aucun problème, tu es à côté de moi, tu me respectes strictement. Viens ici. Non, tu ne vas pas ici, tu montes ton pied là. Bon, regarde, là par contre, ça c'est mortel. Voilà.
Moi je suis pas très à l'aise comme tu vois.
Ouais, d'accord.
Je suis un peu tremblant là.
C'est combien il y a là?
Je sais pas, mais je veux pas voir.
Là, il y a 45-50 mètres de vide.
D'accord.
Tu glisses, tu t'arrêtes pas. C'est du zinc. Donc t'as qu'une protection, c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire ces sortes de rampes qui sont à l'extérieur. Et tu peux t'accrocher. Et encore, il faudra être extrêmement rapide pour t'accrocher parce que la descente, elle va très vite. Hein.
Là, tu essaies de me rassurer?
Non, j'essaie d'être honnête avec toi. Donc faut faire gaffe, faut pas tricher. Quoi.
Wow. Voilà.
Là, tu vas t'approcher et regarde, viens voir. Ah vas-y, vas-y, mais je te tiens, putain, voilà.
Oh. Hein? Ok, donc là, confirmation, il y a le vide en dessous.
Ok, je vais sauter à la corde ici, face là. Mon visage sera là-bas.
Donc là, hors humain, en fait, s'apprête à sauter à la corde sur un demi-cercle en zinc. Là, il y a vraiment... une vue incroyable, exceptionnelle, mais il y a aussi 50 mètres de vide à pic. Donc on va pas dire que c'est risqué, on va dire que c'est insensé. Je sais pas si je préfère regarder ou pas. La corde qui fond l'air.
Ah
Te revoilà, hors humain.
Oui, me revoilà.
C'est quelque chose qui me permet de rester vivant.
D'affronter la mort comme
oui,
ça
oui. Oui, ça me permet de rester vivant. Je ne me fais pas du tout assez de vie humaine. Et c'est le contraire du suicidé qui cherche désespérément à partir. Moi, je cherche désespérément à rester vivant.
Une balade sur les toits de Paris, quand on voit Paris de haut. Si on relit les pages dans l'Assommoir où Émile Zola décrit le travail du couvreur avec ses feuilles de zinc, son tréteau posé sur la toiture si elle n'est pas trop pentue, les gestes, l'apprenti, le fourneau, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, toujours, sur les toits de Paris, la façon que les couvreurs ont de travailler. Ce qui a changé, évidemment, c'est l'ascenseur. Voilà. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les pauvres étaient en haut dans Paris. Après, qu'il y ait eu les greniers où on entreposait les réserves. Mais ensuite, ça a été les pauvres qu'on mettait en haut parce qu'il fallait grimper là-haut. C'était les domestiques, c'était les bonnes. Et ça, ça a été le cas jusqu'à l'invention de l'ascenseur où ceux qui habitaient les beaux étages, le deuxième, le cinquième, eh bien, pouvaient grimper. Et on a vu peu à peu les chambres de bonnes se transformer en lieu pour d'abord les artistes. Hein. Il y a eu les chambres de bonnes, c'est-à-dire les prolos, puis les artistes, puis les bobos, puis les bourgeois, puis le vide. Puis le vide, c'est-à-dire le musée, le décor, et la vie s'en va ainsi de beaucoup de quartiers de Paris. Mais aujourd'hui, il faut être en altitude. Autrefois, c'était les prolos qui étaient en hauteur. Aujourd'hui, ce sont les bobos qui ont sur les toitures, planter des jardins, des terrasses, des penthouses. Oh là là, ça c'est formidable d'avoir une penthouse sur un toit de Paris. Les choses se sont inversées, les prolos se sont retrouvés dans leur ruisseau, le cul par terre. C'est de la faute à qui ? À Voltaire, à Rousseau, peut-être bien. Et s'en vont refaire Paris, hors de Paris peut-être. Ça, ce sera la suite de l'histoire. Pour l'instant, on a parlé des couvreurs, mais il ne faut pas oublier un personnage extrêmement important dont mes ancêtres faisaient partie, mes ancêtres savoyards faisaient partie, les ramoneurs.
En mission ramonage avec Apollinario Simoès. Apollinario, vous êtes donc ramoneur.
C'est le mot, mais ma vraie profession, ça s'appelle fumiste. Je suis fumiste.
Vous faites rien, c'est ça?
Évidemment, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on tape à une porte et qu'on dit c'est le plombier, c'est le facteur, c'est vrai que de dire c'est le fumiste, c'est un peu bizarre.
On a rendez-vous avec José.
Oui,
José qui travaille avec vous, Marco.
Oui, qui travaille avec moi. Parce que pour repérer un conduit de cheminée, il faut être deux. Un dans l'appartement et un sur le toit de Paris. Pour pouvoir faire un repérage de la cheminée et savoir exactement où se trouve la cheminée du client par rapport à la toiture.
Voilà José. Voilà. Bonjour José.
Bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est le monsieur Simoès. Bonjour madame, les ouvriers.
Donc là on est dans le 16e arrondissement de Paris.
Oui.
On est dans un magnifique appartement et on est parti pour
le ramonage et la remise en fonction de trois cheminées. L'appartement est superbe, mais par contre, les conduits de cheminée, ils ont 100 ans, voire 200 ans.
Vous avez trois cheminées, vous ne les avez jamais fait marcher encore?
Non, jamais. J'ai vu ça chez des amis et je pensais qu'on n'avait pas le droit dans Paris. Et en fait, si, on a le droit. Hein.
Vous vous appelez comment?
Sophie. Ça va être magnifique.
C'est
celle-là, je sais que j'ai lancé.
Non, on va les repérer tous. Donc, mon collègue monte sur le toit, on va brûler les fumigènes et on va repérer les conduits, mais surtout voir si les conduits sont aptes à fonctionner. C'est parti. Oh, il doit avoir une échelle et tout ce qu'il faut.
Il n'y a pas d'échelle.
José,
ouais.
Il faut que tu passes par là. Tu escalades ça parce que là, on n'a pas la clé. Normalement, on passe par là.
C'est le vide, là. Ah oui, là, c'est le vide.
OK. Donc, regarde. Tu mets ton pied là.
Ouais, je vais sur le pied là.
Et les conduits cheminés sont derrière.
Depuis 20 ans, on fait ça.
Oui. Donc là, José, il est en train d'enjamber la fenêtre.
Tu te mets du côté rue Renoir. Je vais faire brûler le fumigène. Et après, on va faire contrôle. Venez, madame.
Je vais pas rester, mais j'ai un truc pour
le
mettre. Ça va, il n'y a pas de danger.
Non, vous inquiétez pas.
Mais c'est pour lui, hein.
Non, mais moi aussi, je vois.
Moi, j'aimerais bien le rejoindre, José, là. Bon, en fait, en dessous, c'était pas complètement du vide. Il y avait un contrebas et il faut monter sur le toit, qui est un étage supérieur. Je vais essayer d'y aller. On y est. J'ai rejoint José et il se parle.
Putain, ça...
Vous faites quoi là?
On crie, comme ça on repère la cheminée. J'ai fait un croix dessous. Regarde.
Ah, on l'entend.
Feu ! Attends, bouge pas. Feu, c'est celle-là.
Mais bon, tu peux faire du croix au-dessus, là.
Donc, là, il y a Marco qui est resté en bas.
En bas, il crie. Comme ça, j'écoute en haut, on regarde c'est laquelle, et après, on fait une croix pour repérer les souches des cheminées qui vont chez le client.
C'est le cri du ramoneur.
Le cri du ramoneur, oui. Comment on dit ?
On descend. On a terminé.
Et on ramone ou pas?
Pardon?
On va ramonner.
Ah, en bas, oui.
Depuis en bas?
Depuis en bas, parce que nous on a des baguettes flexibles au moment du champ.
Donc le goupillon il va sortir, c'est ça? Ça a une forme de brosse en goupillon?
Une brosse, oui, qui va sortir ici.
Donc là, on va redescendre, on va ramonner d'en bas. Donc on va plus sur le toit, là. C'est fini?
Sous celle-là, non. C'est terminé.
Vous aimez bien les toits, vous?
Ouais.
Vous venez
Faro,
d'où, José?
Faro, comme lui, Faro.
C'est où, Faro?
Faro, c'est le sud de Portugal. C'est comme ici, la Côte d'Azur, quoi. Voilà, c'est le coin touristique de Portugal.
Et là, vous êtes sur les toits de Paris?
Ouais. Ça me plaît bien.
Vous vous sentez comment, là?
Bien, parce qu'on dirait que je domine le monde. Je domine tout Paris.
Il y a un côté adrénaline, moi j'ai pas envie de partir, là, je suis bien ici.
Ouais, mais c'est comme moi, le travail ça appelle. C'est comme ça.
Allez, on va travailler.
Vous laissez passer avant. Vous vous tenez bien. Il faut pas avoir trop de confiance. Hein. Il faut toujours bien se tenir. Voilà. Il faut bien se tenir tous les jours.
Il faut pas avoir trop de confiance.
Ah non, jamais. C'est comme la mer, vous voyez, les gens qui s'est nagé, des fois, la mer, des fois, ils les ramènent parce qu'ils ont trop de confiance en haut.
Vous avez eu peur des fois?
Oh, j'ai peur. Bah, il n'y a personne qui dit qu'il n'y a pas peur, et moi, on a toujours peur. Bah, c'est le travail.
Cheminée, chemin joli, si j'ai la chance, bien que la chance me suit. Cheminée, chemin amour, je cherche ma chance dans la suite des conduits. Et si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi. Je peux recueillir est seulement pour toi un lambeau de ciel qui traîne sur les toits. Et dans les cheminées, je trouve parfois une pointe de toile qui est tombée pour toi. Et si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi.
Observatoire de Paris. On est dans le 14e arrondissement, pas loin de l'arrêt de métro d'Enfer-Rochereau, et on a rendez-vous sur les toits de l'Observatoire de Paris, et plus précisément dans la coupole Arago, avec un astronome. Lui, il regarde les toits de Paris, mais il regarde aussi les étoiles depuis les toits de Paris. Et les étoiles, c'est pas facile de les voir à Paris parce qu'il y a beaucoup de lumière.
François Collat, je suis astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris. Donc en fait, on va souvent observer à la lunette dans Paris. Donc on ne va pas regarder les galaxies très faibles, mais pour les planètes ou la Lune, c'est toujours amusant d'aller voir là-haut.
Et vous vous battez aussi contre la pollution lumineuse.
Voilà, parce qu'en fait, les halos des grandes villes, ils sont très forts, quoi. Et donc, se battre pour les lumières à Paris, c'est aussi permettre que les gens voient le ciel, parce que c'est quand même important de bien comprendre qu'on est sur une petite planète et qu'on est dans un espace immense et qu'on n'est pas grand chose, et le fait de voir le ciel, c'est vraiment très important.
Là, on est dans les anciens bâtiments de l'observatoire. Et il y a combien d'étages alors jusqu'à la coupole?
Il n'y en a que deux, mais ils sont grands.
C'est incroyable.
Voilà, donc on voit tout Paris.
On a la butte de Montmartre pile poil en face de nous.
Voilà.
On a la tour Montparnasse à gauche, la tour Eiffel pas très loin.
Voilà, on voit tout Paris, enfin tout ce qui dépasse.
Le ciel est magnifique, c'est orangé, il y a quelques nuages gris.
Là, on commence à voir tous les lampadaires. Voilà. Bon, en particulier là devant, on voit très bien les lampadaires. On appelle ça les lampadaires boules, hein, donc on voit bien qu'ils... C'est une sphère qui éclaire et que la moitié de la lumière part vers le ciel. Donc c'est vraiment des lampadaires qui sont inefficaces en fait pour éclairer le sol, quoi. Il faut voir qu'un éclairage comme ça, celui qui est devant l'observatoire, c'est à peu près entre 200 et 400 fois l'éclairage de la pleine lune. En particulier les grands centres commerciaux, là c'est dramatique, quoi. Toutes les grandes enseignes en néon, là c'est pareil, c'est de la lumière qui part dans le ciel et qui sert à rien, quoi.
Là, on est juste devant la coupole avec ses petits hublots, une grande coupole blanche. On a l'impression de rentrer dans une tour de cosmonaute.
Ça, c'est la lunette Arago. Donc Arago, c'était un directeur de l'Observatoire de Paris au 19e siècle et qui avait décidé de faire un grand instrument.
Elle est énorme.
Elle est énorme, oui. C'est un peu, ça ressemble à la lunette de Tintin, hein. C'est exactement ça.
Et à l'intérieur de la coupole, on peut toujours voir les toits de Paris à travers les petits hublots. Il y en a plein tout autour. Vous regardez quoi, là?
Bah, s'il n'y a pas une grosse étoile là-bas, c'est Jupiter là, qui se lève juste à l'est, là. C'est très brillante.
Hein. Donc François Collat, il fait pivoter la lunette pour tenter de viser Jupiter. Juché sur un escalier en bois, avec cette grosse lunette astronomique qui fait 9 mètres de long dans les mains. Vous la voyez?
On voit Jupiter et ses 4 principaux satellites. Ah bah, allez-y, vous pouvez observer.
Je monte en haut. Waouh!
On se sent toujours petit en fait quand on regarde le ciel, et c'est pour ça que c'est important de garder le ciel. C'est pas tellement un côté égoïstes des astronomes qui disent voilà, nous on veut garder le ciel parce que nous on a envie de continuer à faire des recherches. Mais je pense que pour les personnes, en fait, c'est vraiment important de bien comprendre qu'on n'est pas grand chose. Quand on est à la campagne dans un ciel de qualité, on voit la Voie lactée, là, on voit tout de suite qu'on est dans une galaxie où il y a des centaines de milliers d'étoiles pareilles et une galaxie banale dans un univers banal, et donc ça remet bien les choses en place quand même.
Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence ? Fantomas, serait-ce toi qui te dresses sur les toits ? Voilà, il fallait quand même finir avec ces vers de Robert Desnos. Merci à tous. Quand on voit Paris d'en haut, un reportage de Sarah Lefebvre et Gaylor Van Vimersch. Merci à mon homonyme Gilles Mermet, le photographe. Merci à Francis Arsène, à ses ouvriers. Merci à Hors Humain, à Marco Simoès, à José, Anne-Claire Val, François Collat, Alexandre Lacroix. Merci. Le livre du photographe Gilles Mermet, Aucun conflit d'intérêt, Les toits de Paris ou l'art découvreur, aux éditions La Martinière. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ou sur le site là-bas.org, la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Philippe Duclos et Sandrine Laurent étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. J'attends vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.